Ce Shabbat, c'est le Shabbat de la parashat Ekev. Donc ce Shabbat, on va lire la parashat Ekev, et au moment de Mincha, on commencera à lire la parashat Re'e. C'est intéressant ici de dire, sous la forme d'un chidouch, le rapport qui existe entre Ekev et Re'e. Ekev, ça désigne l'action, ça désigne vraiment l'action de l'homme dans ce monde matériel. L'homme, il doit agir dans ce monde pour en faire une demeure pour Dieu. Et en agissant de cette manière, il va révéler la vision du divin, il va provoquer la délivrance finale. Donc on peut dire que ces deux parachutes-là, elles sont liées à notre mission de faire de ce monde une demeure pour l'essence divine, de nous attacher à l'accomplissement des commandements divins et à l'étude de la Torah, de manière à provoquer la venue du Mashiach. Donc ce travail qui consiste à raffiner ce monde matériel, il est lié avec la parashat Ekev, et la vision du divin, vraiment, le fait de voir de nos yeux, de chair, la Geoula, la délivrance finale, c'est lié avec la parashat Re'e. Alors dans le Dvar Malchut de cette semaine, donc le Malchut sur la parashat Ekev, le Rabbi va nous dire que cette parashat-là précède le mois d'Elul, et le mois d'Elul lui-même, c'est connu, les rachet tevot du mot Elul, c'est Ani Ledodiv et Dodili. Ça signifie que le travail de chaque juif, c'est de s'unir lui-même, Ani, avec Akadosh Baruch Hu, avec le Saint béni soit-il, Dodi. Et alors, Akadosh Baruch Hu lui-même va se rapprocher de ce juif-là, et ça c'est le sens de Dodili. De manière plus précise, il est question ici de deux sortes de travail que le juif doit accomplir. Le travail de purifier le corps, son propre corps, et le corps de ce monde matériel qui l'entoure. Donc ce travail-là, il correspond à un travail du bas vers le haut, c'est Ani Ledodi. Et le travail de dévoiler la force de son âme, la force de la Neshama, et plus particulièrement même la force de l'essence de l'âme, la partie de l'âme qui s'habille pas dans le corps. Et donc de quelle manière ça s'exprime? C'est par le fait de réaliser la volonté, d'accomplir la volonté de Dieu, sans tenir compte des problèmes que nous oppose ce monde matériel, sans tenir compte de toutes ces difficultés, de tout ce qui nous dérange, de toutes les limites qui nous empêchent d'accomplir la volonté de Dieu. Donc ce travail-là, il nécessite de la part de chaque juif au moment du mois d'Elul qui approche, donc c'est d'exprimer ces deux types-là, d'exprimer ces deux types de travaux, de s'attacher sa mission, c'est-à-dire d'élever, de se rapprocher de Dieu dans un premier temps, le travail du bas vers le haut, et d'attirer l'aide divine, d'attirer l'influence, le shefa, la bénédiction de Dieu, et ensuite même d'unir ces deux types de travaux l'un avec l'autre, c'est-à-dire de faire la volonté de Dieu sans vraiment considérer les limites de ce monde, les limites de son corps, et d'agir donc au-delà de toutes les limites, et même de faire pénétrer cette lumière profonde-là dans son propre corps et dans le corps de ce monde matériel. Alors pour introduire ce sujet-là, le sujet dont il est question dans le Dvar Malchut sur la parashat Ekev, il est bien de rappeler un enseignement du Rabbi dans son recueil intitulé « Inyana shel Torat Chassidut » qu'il a prononcé au moment de Yutet Kislev. Donc là aussi, il y a une allusion au fait de sortir de prison, de sortir de ses propres limites. Et donc dans ce discours-là, au 18e chapitre de ce recueil, le Rabbi va apporter un concept divin qui est très présent dans toute l'étude de la Chassidut. C'est lequel? C'est celui que le début est ancré dans la fin. Qu'est-ce que ça signifie, le début qui est ancré dans la fin? Ça signifie que, par exemple, on voit que l'homme, il a été créé en dernier, et en même temps, on voit qu'il représente lui-même le but de la création. Donc ce principe-là, il est fondamental ici, pour comprendre le contenu profond de l'enseignement du Rabbi. Quand on parle « le début est ancré dans la fin », on veut dire ici que la fin représente ce monde, ce bas monde, même on peut le désigner ainsi, qui est imparfait. Et donc, et même les aspects les plus bas de ce monde, toute la création elle-même, dans son aspect le plus bas, il est lié avec le début, avec l'intention de Dieu de créer le monde. C'est-à-dire que même dans les niveaux les plus bas, que ce soit chez l'homme lui-même, comme l'âme animale, ce qui le pousse à assouvir des désirs grossiers, ou que ce soit dans ce monde matériel, les niveaux les plus bas de ce monde matériel, et même la matière elle-même, on voit que l'essence divine, elle est liée avec ces niveaux qui sont vraiment inférieurs. Ça signifie que le début est ancré dans la fin. Le début, ça désigne l'intention de Dieu de créer le monde. Et la fin, ça représente ces niveaux qui sont élémentaires, qui sont bas, qui sont triviaux. Et malgré tout, dans cette grossièreté, dans la grossièreté de la matière, dans la grossièreté de l'âme animale, se cache l'intention divine. Et c'est l'importance de la mission d'un juif, c'est de révéler, justement, de faire de ce monde inférieur une demeure pour l'essence divine, c'est de révéler justement, jusque dans les niveaux les plus bas, le divin qui se cache. Ça, c'est la mission de chaque juif. Donc ça, c'est lié avec la parachate Ekev. Comme on l'a dit, on voit que Ekev, ça désigne le talon, c'est la partie la plus grossière du corps, et en même temps, c'est uniquement dans le talon que se dévoile la force de Messerou Nefesh. Ça, c'est un discours du Rabbi Reat qui nous explique que, justement, ce talon-là, qui est grossier, qui est insensible, ce même talon, il est capable de rentrer dans l'eau bouillante, contrairement à la tête, qu'on ne peut pas rentrer dans de l'eau bouillante, pour nous expliquer que le talon lui-même, qui représente la partie la plus insensible du corps, c'est précisément cette partie-là qui est capable de rentrer dans l'eau bouillante, et donc ça correspond de manière profonde au fait qu'un juif, il est capable, vraiment celui qui n'est pas érudit, donc celui qui est la tête, ça représente le juif qui est érudit, alors que le talon, ça représente un juif qui n'est pas érudit, mais ce juif là qui n'est pas érudit, il a cette capacité de rentrer dans l'eau bouillante, de faire don de sa propre vie pour sanctifier le nom divin. Donc on voit le niveau du talon par rapport à la tête, et c'est aussi le même rapport qui existe entre la génération de Moshe qui est comparée à la tête et la génération de notre génération qui correspond au talon, puisque on voit que cette génération-là, le Rabbi Racham nous explique que l'intellect, il affaiblit la volonté. Donc on voit que si on commence à réfléchir, on aura plus de difficultés justement à rentrer dans l'eau bouillante, à s'engager dans des missions qui nécessitent vraiment cette force de Messirut Nefesh. Donc le talon lui-même, il représente notre génération et il représente cette capacité de faire don de notre propre vie. Justement, on voit que dans ces aspects les plus triviaux, on voit le lien qui existe avec le divin. L'intention de Dieu, elle se révèle justement dans ces aspects les plus grossiers. Donc le point qui est important ici, c'est de comprendre que ce bas monde qui est imparfait et vulgaire, et ainsi que même tous les aspects les plus bas de la personne humaine, ils constituent en réalité des lieux d'élection des plus hautes révélations et caractérisent l'intention divine initiale. Ça signifie donc que c'est précisément quand on va dévoiler le divin dans les niveaux les plus bas qu'on va dévoiler la force de l'essence divine. C'est pour cela que l'essence divine, même l'essence de la Torah, elle est comparée à de l'huile, puisqu'on voit que l'huile pénètre dans les matières les plus dures, comme le talon, la partie la plus grossière. C'est pour nous expliquer que justement, c'est dans ces actions-là qui nous semblent élémentaires, qui nous semblent de petits niveaux, c'est précisément en agissant et en accomplissant ces commandements divins, comme le dit Rashi, il dit c'est en accomplissant les commandements divins qu'on les foule avec le talon, c'est-à-dire les choses qu'on ne considère pas, c'est en les accomplissant ces choses-là qu'on va dévoiler justement la force de l'essence divine, la force du divin, justement, qui est liée avec ces niveaux les plus bas, comme on l'a dit, le début est ancré dans la fin. Le début est ancré dans le commencement. Dans le Dvar Malchut, le Rabbi nous explique donc que pendant le mois d'Eloul, qui s'appelle le mois de Cheshbon Nefesh, on doit faire un bilan spirituel de nos actions, de tout ce qu'on a accompli durant toute l'année. Et donc ce bilan moral, il doit s'exprimer en trois choses. La première, c'est combien on s'est investi pour purifier le corps, notre propre corps, et pour purifier le monde. Combien on s'est investi pour dévoiler la force de notre âme, et combien on s'est investi pour faire l'union entre les deux. Donc ce travail-là, c'est la mission de chaque juif, c'est très important de comprendre ici qu'on doit non seulement dévoiler la force de l'âme, mais on doit aussi purifier le corps. Alors quelle est la chose la plus importante entre les deux ? Alors pour expliquer cela, on pourrait parler d'un exemple de halachique et que l'Admor HaZaken nous rapporte dans son Shulchan Aruch. L'Admor HaZaken, il explique que quand on fait cuire, que Dieu nous en préserve, de l'eau pendant Shabbat, alors évidemment cette eau-là, elle est interdite. Il est interdit d'en tirer profit, que ce soit pendant le Shabbat ou même après Shabbat, c'est de l'eau qui est interdite. Pourquoi ? Parce que c'est interdit de faire cuire pendant Shabbat. Donc l'eau qu'on a cuit dans une casserole, par exemple, cette eau-là, elle est interdite. Seulement, l'Admor HaZaken, il va poser une question, il va demander, est-ce qu'il faut faire la Hagala du Keli ? C'est quoi la Hagala ? C'est de débarrasser la casserole de l'interdit qu'elle a avalé dans ses parois. La casserole, elle a avalé de l'eau qui est interdite, et cette eau, elle se trouve dans les parois du Keli, donc. Et donc, on doit faire la Hagala de ce Keli, donc on doit la chauffer, la brûler, de manière à ce qu'elle extrait toute l'eau interdite qui se cache, qui est à l'intérieur des parois du Keli. Alors, c'est intéressant de comprendre ici qu'on pourrait se servir de cet exemple-là pour dire que l'espace vide de la casserole lui-même, on pourrait le comparer à l'âme, et la paroi de la casserole, on pourrait la comparer au corps. Donc on voit que l'âme, elle est en contact avec le corps, mais on doit, pour auparavant purifier le corps, c'est ce que demande la Admor HaZaken, de prendre la casserole et d'évacuer l'interdit qu'elle a avalé dans ses parois, cette eau interdite qui a avalé dans les parois de la casserole, de manière à ce que l'ustensile devienne cachère. Donc on voit que c'est important de vraiment purifier les parois du Keli, en l'occurrence il s'agit ici de purifier le corps, parce que le corps est en contact avec l'âme, et c'est de cette manière-là qu'on peut faire l'union entre l'âme et le corps, et qu'on peut parvenir à une pureté qui est véritable. Donc, l'Admor HaZaken, ici, dans cet exemple-là de la halakha, ça convient tout à fait à l'enseignement du Rabbi, qui nous demande, qui nous explique, qui met l'accent sur le fait que pendant ce bilan moral qu'on doit accomplir pendant le mois d'Eloul, on doit porter toute notre attention en premier, le travail de base, c'est de purifier le corps. C'est en purifiant le corps qu'on parvient justement à en faire un réceptacle pour ensuite dévoiler cette lumière de l'âme, dévoiler les niveaux de l'âme les plus élevés. Donc ça implique nécessairement de purifier auparavant le corps. Donc c'est ça le point ici qui est important, c'est l'importance du corps. Et encore une fois, le corps, ça désigne la matière, ça désigne Ekev, le talon. Le talon qu'on doit élever, puisqu'il possède une force qui est supérieure à la tête, d'une certaine manière, mais c'est pour ça que ça nécessite auparavant de le purifier. On peut rapporter deux exemples ici. Le premier, c'est un exemple donc du Rabbi lui-même, dans le Dvar Malchut. Il dit que pour faire venir le Machar, il faut répandre les sources du Baal Shem Tov à l'extérieur, et il se demande pourquoi le Machar n'est pas encore là. Là-dessus, il explique qu'évidemment, on doit demander, chaque juif, il a le mérite de demander ad matai, de demander jusqu'à quand, pourquoi le Mashiach n'est pas encore là. Et il répond à cette question en disant qu'il a réfléchi et il s'est dit que la chassidoute doit pénétrer dans les endroits les plus reculés, et donc parce qu'elle a le pouvoir de transformer le mal en bien. Et il s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui ne profitent pas de l'enseignement de la chassidoute, ce sont les non-voyants. Alors il a demandé à ce qu'on traduise des ouvrages de chassidoute en braille pour donner à ces personnes-là la possibilité d'étudier la chassidoute. À cela, il ajoute qu'au moment de la délivrance, on n'aura même plus besoin de lire dans l'écriture, de savoir, de pouvoir voir des livres et d'étudier des livres, puisque le Machar, il va nous enseigner par la vision. Donc on voit l'importance de la vision, de voir avec nos yeux de chair. Mais comme on l'a dit, ça dépend du talent. Ça dépend du fait d'abord de traduire, d'imprimer des livres en braille pour donner à ces gens-là la possibilité d'étudier la chassidoute, de manière à ce que la chassidoute, à l'image de l'huile qui pénètre dans les matières les plus dures, elle puisse se révéler dans ces niveaux les plus reculés. Le talon, ces endroits-là les plus insensibles, puisque le talon, ça représente la partie la plus insensible du corps. Et donc, de la même manière, une personne qui est non-voyante, il faut qu'elle cesse d'être insensible à l'enseignement du rabbi, à l'enseignement de la chassidoute. On doit lui donner la possibilité donc de parvenir et de pouvoir étudier la chassidoute. Ça, c'est un premier exemple. On peut donner un autre exemple pour, aussi, pour donner l'importance du talon. C'est celui de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, d'ailleurs, son propre nom, Akiva, c'est lié avec Ekev, avec le talon. On raconte dans la Gemara Melachot qu'un jour, Kadosh Baruch Hu, il était en train de dessiner des couronnes sur les lettres de la Torah. Et Rabbi Akiva est entré à ce moment-là et a vu le Saint béni soit-il en train de dessiner des couronnes sur les lettres de la Torah. C'est intéressant ici de remarquer que les couronnes qu'on dessine sur les lettres de la Torah, quand on écrit un Sefer Torah, on doit les dessiner quand on a terminé d'écrire une lettre. C'est-à-dire à partir du moment où la lettre elle est finie, alors on écrit ses couronnes. Ça rappelle l'enseignement qu'on a dit au début, la fin de l'action est au début dans la pensée. Ça signifie que ce qu'on a fait en dernier ici, ce sont les couronnes. D'abord on a dessiné la lettre, puis en dernier on a dessiné les couronnes. Mais on doit se rappeler que les couronnes, elles sont au début dans la pensée de Dieu. Donc en plus, le mot couronne lui-même, il désigne la séphira de Keter, donc c'est la lumière infinie de Dieu, la lumière d'Or en Sof. Donc elle est au début dans la pensée de Dieu et elle apparaît en dernier au moment où Dieu il écrit les lettres et ensuite il dessine les couronnes. Et c'est Rabbi Akiva, quand il est entré, il a vu Dieu en train de faire ses couronnes, il a demandé qu'est-ce qu'il était en train de faire, et Dieu lui a dit, ça correspond à ce qu'on vient de dire, qu'à partir de ces couronnes-là, il y a un sage dans la Torah, c'est Rabbi Akiva, qui va dévoiler des centaines de halakhot. Donc, on voit ici que c'est que, justement, cette halakha, là, c'est la fin de l'action, c'est vraiment, elle représente la volonté de Dieu, c'est vraiment d'agir de manière concrète dans ce monde. Elle est au début dans la pensée de Dieu. Et c'est justement le nom d'Akiva, qui désigne le talon, qui est lié avec ces couronnes-là. Donc ça confirme ce qu'on a dit jusqu'à présent, cette force divine qui est au début dans l'esprit de Dieu, qui apparaît en dernier dans la création, de la même façon toutes ces mitzvot qui nous semblent grossières et c'est pas le mot grossier, qui nous semble élémentaire, pardon, qui nous semble pas importante, ces mitzvot qu'on foule avec le talon, elles sont liées finalement avec la couronne divine, avec la volonté de Dieu, de manière profonde. Et c'est la mission de chaque juif de le révéler. Donc c'est tous ces enseignements-là du rabbi, en fait, il s'exprime aussi par le fait que, dans ce même ouvrage, dans l'Inyana Shel Torah Hassidut, le rabbi, il explique que l'essence de l'âme, elle ne peut se révéler que par l'intermédiaire de l'intellect et des émotions. Donc on voit que l'essence de l'âme qui représente le niveau le plus haut, puisque l'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans le divin, elle a besoin de l'intellect, elle a besoin des émotions pour s'exprimer. Et donc on voit que l'intellect et l'émotion, ce sont les forces de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, qui sont liées, donc, comme on l'a dit, avec Ekev, avec le talon. Donc elle a besoin de ce Ekev, l'essence de l'âme, elle va se dévoiler grâce à ce talon. Donc c'est un peu peut-être ici le point peut-être le plus essentiel, c'est de comprendre que on doit s'attacher à purifier le corps, purifier Ekev, cette matière-là, inanimée, parce que c'est précisément cette matière inanimée qui cache l'essence divine. De la même façon, on doit avoir un regard sur l'autre et on doit considérer que chaque juif, même celui qui nous semble être au niveau le plus bas spirituellement, au niveau de Ekev, la partie la plus basse du corps, puisque l'Assemblée d'Israël est comparée à un corps, même celui-là, on doit lui donner toute son importance. Et c'est ça ce que fait le rabbi sans cesse, donner l'importance à chaque juif, quel qu'il soit, parce que chaque juif, quel qu'il soit, son âme, elle est enracinée dans l'essence divine, et il détient le pouvoir de dévoiler l'essence divine, la Torah du Mashiach, dans ce monde, très bientôt, et de nos jours, avec l'aide de Dieu.